BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, il est 10h passé de 1 minute, c'est la seconde partie des experts. On est encore ensemble pour une bonne demi-heure de débat. On va analyser les chiffres du commerce extérieur du mois de mai, me corrige Dorothée Rouzet. Mais oui, bien sûr, c'est le déficit du mois de mai. Mais il touche quand même près de 7 milliards, on est d'accord. Hein, ouais, c'est pas terrible. On va retourner encore une fois sur une étude de Rex et Code hein, qui a quelques jours. Mais toujours absolument passionnante, qui parlait de ce positionnement des produits français, produits manufacturés français, du positionnement prix notamment, qualité, innovation, notoriété. On est plutôt bien perçu à l'étranger, mais on est trop cher, dit Rex et Code.
Oui, alors on a sorti cette étude il y a quelques temps et on l'a fait tous les avec l'école Schema Business School. Oui. C'est un partenariat qu'on fait à deux et l'idée c'est vraiment de demander aux importateurs étrangers comment se situe la France par rapport à différents pays sur des critères hors prix, ce qui est pas ce que l'on mesure avec des chiffres, mais c'est ce qui nous intéresse. Or, chaque étude, de toute façon, a ses fragilités, ses faiblesses, mais la force de cette étude, c'est d'abord d'exister et de nous dire, oui, que, au fond, sur un certain nombre de critères de qualité, on n'est pas si mal que ça. Sur les prix, on est très élevé. On est moins élevé quand même qu'à l'Allemagne, il faut le savoir. Mais en fait, en termes de
rapport... Ce qu'on dit traditionnellement, c'est qu'on vend des produits de qualité espagnole au prix allemand.
On est mieux situé en termes de qualité que l'Espagne, même que l'Italie, de manière générale. Après, il faut regarder chaque ligne. Par contre, quand on fait le rapport, effectivement, en général, on pêche par rapport à l'Allemagne, qui, au fond, s'est situé à un niveau de gamme qui lui permet d'avoir des prix très élevés tout en restant compétitif. On se fait aussi rattraper de plus en plus par la Chine sur la qualité. Ça, c'est quelque chose. Pendant très longtemps, on a assimilé collectivement un petit peu Chine, bas coût, basse qualité. C'est plus tout vrai. Il suffit de monter dans une voiture chinoise pour se rendre compte. Donc, de fait, en fait...
Le coût reste toujours faible, mais la qualité nous dépasse.
On est un petit peu pris en étau. De la même façon, d'ailleurs, que l'Espagne et le Portugal l'étaient au moment de l'entrée de la Chine dans l'OMC. Nous, on y est un petit peu aujourd'hui. Ça pose des questions pour la suite. Ça pose des questions notamment de compétitivité hors prix. Et là, on voit quand on regarde, tu parlais du déficit extérieur, en fait, on voit que sur le plan du commerce extérieur, on a un monde un petit peu à plusieurs vitesses. C'est-à-dire sur certains secteurs sur lesquels on est très fort, l'aéronautique et l'espace, ça va plutôt bien. Après, il y a un certain nombre de secteurs où ça va mal, alors pour tout un tas de questions. Mais par exemple, on n'est pas très fort sur les biens de consommation hors luxe, où là, pour le coup, on a réussi à s'affranchir et d'ailleurs on voit les créations d'emplois d'Hermès ou de LVMH sur le territoire. Donc ça pose ce type de question, ça pose une question toujours de la compétitivité du site France. Or, on a parlé un peu des allègements de cotisations sociales. Une façon quand même de regarder où on se situe, c'est de comparer le coût du travail et la productivité. Parce que, à la limite, un coût du travail très élevé, notre coût du travail horaire, il n'est pas plus élevé que celui de l'Allemagne ou des Pays-Bas. On est arrivé, grâce aux différentes mesures, comme le CICE ou autre, à le ramener en dessous. Par contre, quand on tient compte de la productivité, par exemple, le PIB par habitant ou le PIB par heure, en fait, on voit qu'on a quand même un écart. En fait, on est plutôt en haut d'une courbe qui est assez linéaire entre pays européens, et nous on est un peu au-dessus. Donc ça interroge quand même, on se dit que certes on a fait beaucoup d'efforts, et voilà, le CICE, la baisse d'allègement de cotisations et tout ça a quand même réduit le gap avec les autres pays, mais on partait d'un niveau tellement important qu'au fond on reste...
C'est de 50 milliards les charges sur les entreprises.
On revient toujours derrière sur le modèle social.
70. Dorothée, juste un point sur le commerce extérieur, pourquoi ça se dégrade au mois de mai? Quels sont les...
au mois le mois, il y a beaucoup de choses qui changent. Oui. Hein, au mois de mai, on a un peu moins de factures énergétiques parce que les prix des énergies s'étaient un peu repliés par rapport à avril. On a une détérioration sur certaines lignes industrielles. Par ailleurs, le commerce de services va mieux, donc la balance des services s'améliore. Je pense qu'il ne faut pas trop regarder les évolutions au mois le mois, c'est assez heurté.
Alors, structurellement, ça dépend des livraisons aéronautiques,
etc.
Parce que ça s'améliore quand même sur longue tendance.
Voilà, alors sur longue tendance, ça dépend de l'horizon qu'on prend. Si on compare par exemple par rapport à 2019, un peu avant la succession de chocs qu'on a connue, en termes de compétitivité prix, on s'est plutôt bien tenu, notamment parce que sur les coûts, ça a été tenu par un certain nombre d'efforts qui ont coûté de l'argent public, hein, que ce soit sur les allègements de cotisations, sur les impôts de production, et aussi par le fait qu'on a eu une inflation assez nettement plus basse en cumulé au travers de la crise énergétique de 2022-23 et depuis que nos partenaires européens Donc par rapport à l'Allemagne, on a regagné en compétitivité prix par aussi le fait d'avoir contenu l'inflation. Et donc les coûts salariaux et la progression.
Le bouclier énergétique nous a coûté très cher, donc, mais nous a permis de gagner 10 à 15 points.
Sur les prix, ça s'est tenu par rapport à nos partenaires européens. Évidemment, il y a le gros sujet chinois. Qui arrive et qui quand on regarde, alors en fait c'est assez compliqué en fait de regarder les importations chinoises et de faire un diagnostic parce que les importations on les voit en valeur. Or ce qui se passe quand on regarde un peu sous le capot, quand on essaye de décomposer, c'est que on a le volume d'importation qui augmente et leur prix qui baisse. Donc quelque part, vous pouvez avoir le même montant qui arrive, mais en fait, c'est plus de containers avec des prix qui baissent. Et donc ça, en termes de compétitivité, évidemment, ça nous pose un problème dans beaucoup de secteurs. Ensuite, sur les parts de marché, bon, on a perdu un grand coup, je dirais, au moment du Covid. Depuis 2022, on est plutôt en train de regagner des parts de marché.
On regagne des parts de marché à l'international.
Notamment dans nos forces, hein, l'aéronautique, évidemment, est un gros contributeur. Airbus continue sa montée en cadence et ça contribue de manière significative à nos exportations. Par contre, si on voit, par exemple, où était le commerce, qu'est-ce qui a porté le commerce mondial l'année dernière? 2025, ça a été une année assez surprenante sur le commerce mondial, c'est-à-dire qu'on a commencé avec les droits de Donald Trump, on s'attendait à un gros ralentissement.
Et ça a progressé.
Finalement, ça a progressé. Pourquoi? Parce que IA. C'est-à-dire c'est le commerce de puces, de serveurs, etc., de tout ce qui est lié à l'IA qui a porté le commerce mondial. Nous, on n'est pas présents sur ce segment. Donc finalement, on n'en a pas tellement profité. Mais on garde, je dirais, nos bastions que sont l'aéronautique, le luxe, où effectivement, on n'est pas pour l'instant vraiment concurrencé. Mais dans un certain nombre d'autres industries, on a un sujet, on tient la compétitivité prix, par rapport à nos partenaires européens, mais pas par rapport à la Chine. Et donc, je rejoins là aussi ce que dit Olivier, c'est qu'on n'a pas d'autre choix pour s'en sortir que la montée en gamme, l'innovation, d'aller sur la compétitivité hors prix, parce que sinon, on ne pourra pas battre.
C'est quelque chose qu'on arrive à faire, ça, aujourd'hui, en France, monter en gamme, Olivier Lanty.
C'est du long terme sur l'innovation aussi.
Ouais. Alors, c'est un vrai sujet parce que la balance commerciale, pour moi, c'est un peu le juge de paix de notre outil productif, véritablement. Hein. Je suis pas le seul à le dire. Pierre-André de Chalandard, Louis Gallois, co-président de la Fabrique de l'Industrie, utilisent ce terme. C'est eux-mêmes qui l'ont popularisé. Deuxième élément, notre balance commerciale, il faut juste mesurer la vulnérabilité et la fragilité. Il n'y a plus que deux filières en France qui sont significativement exportatrices. Vous les avez citées, l'aéronautique, le luxe. Il y a encore quelques-unes qui sont positives de quelques milliards, mais elles sont en décroissance. La chimie, par exemple, à cause des prix de l'énergie, et beaucoup qui sont en négatif.
Donc, l'agriculture, qui longtemps...
L'agroalimentaire qui tenait grâce mondial, à la boisson notamment, on voit lesquelles, aujourd'hui, est en difficulté. Donc, non seulement c'est un juge de paix, mais quand on rentre par filière, on se rend compte que notre commerce extérieur et que notre positionnement, qu'il s'améliore ou qu'il se dégrade un petit peu, repose exclusivement sur deux filières. C'est quand même pas un signe de grande résilience. Deuxième élément, il a été évoqué, vous parlez de la montée en gamme, etc., comme si les entreprises n'avaient pas fait leur boulot, il faudrait monter en gamme. On l'a dit sur ce plateau, d'abord, regardons les questions de fiscalité de coûts. Qui pénalise le tissu industriel, le tissu économique de la France, notamment par rapport à nos pairs européens. Impôts de production, on en discutait juste avant ce plateau sur par rapport à l'Allemagne. Hein, on est quand même dans le marché unique, on est dans l'Union. Donc, il y a cette pénalisation. Autre élément qui a été un peu esquissé, mais qui, à mon avis, est massif, c'est la concurrence déloyale chinoise notamment. Il y a le rapport, souvenons-en, qui a quelques mois seulement du Haut-Commissariat au plan et à la stratégie, un écart de prix de 30 à 40% par rapport à la Chine, qui est très difficile à expliquer. L'OCDE qui annonce que la Chine aide 8 fois plus que les autres pays son outil productif. Comment voulez-vous que dans ce contexte-là, même si on avait des super chefs d'entreprise avec une super stratégie de positionnement de qualité-prix, du rapport qualité-prix, ils puissent véritablement gagner? Dernier point, il y a ce mythe de la montée en gamme. Super. Est-ce qu'avec uniquement des biens de très haute gamme, vous faites un commerce extérieur qui est équilibré? Vachement difficile. Si vous vous mettez que sur les produits de niche, vous n'arrivez pas, peut-être vous tirez la marge, mais vous n'arrivez pas à avoir les volumes. Donc, on aura nécessairement...
Enfin, si vous êtes dans l'IA, dans le numérique ou la robotique, je pense que vous avez quelques volumes qui vous tendent les bras, quand même.
C'est niche. Et à partir de là, se posera la question à un moment donné qui commence et les choses bougent au niveau européen, sans doute trop doucement. on l'a vu encore par des décisions hier ou avant-hier, de la question de la protection du marché. Encore une fois, une balance commerciale, c'est des exports, mais aussi des imports. On peut essayer de pousser les exports, et c'est très bien. Il faudrait aussi qu'on reconquiert.
Donc vous êtes favorable à la proposition de Thomas Grébin d'augmenter de 30% les droits de douane, de jouer sur la valeur de l'euro.
J'apprécie beaucoup son rapport parce qu'il met les pieds dans le plat.
Mettre une cloche sur l'Europe.
Je pense qu'on ne peut pas se payer le luxe de faire une taxe Trump à 30%. Notre pacte social aurait eu un impact sur l'inflation qu'on n'est pas prêt à encaisser. Les États-Unis, quand même, je vous rappelle, avaient fait la préférence,
qui paye à la fin.
Préférence nationale. Début du mandat de Biden, 75% des achats publics sont de valeur ajoutée américaine. On n'a pas l'équivalent pour doper la demande domestique.
Ensuite, on en discute, la préférence européenne, mais c'est pas fait, oui.
Un super booster à l'inflation. Et enfin, vous venez du protectionnisme. Si on met du protectionnisme aujourd'hui en Europe, manière Trump, c'est-à-dire 30%, vous mettez la charrue avant les bœufs, vous créez un choc inflationniste, vous ne tenez pas socialement. En revanche, on peut faire ce que j'appelle du protectionnisme en dentelle, c'est-à-dire choisir les produits essentiels sur lesquels on veut absolument conserver une maîtrise de l'outil productif.
D'abord, la préférence européenne, ensuite une politique de compétitivité
et d'aide à l'investissement. Enfin, de la protection, c'est l'ordre logique. C'est celui qui a été codifié par la Banque mondiale et le FMI dans les années 80 sur des grandes réussites industrielles, comme par exemple la Corée du Sud. Et les États-Unis, avec leur taille fantastique, qui font que ça fait un choc qu'on voit bien dans l'économie, suivent à peu près la même démarche.
Voilà la fusée à trois étages. Voilà une proposition. Olivier Redoulès.
Quelques petites réactions rapides. Je pense qu'il faut quand même, pour la balance commerciale, il faut quand même avoir la vue biens et services. Il faut même aussi avoir la vue investissement extérieur. C'est-à-dire, on a la chance d'avoir quelques grandes entreprises qui réalisent toujours à peu près 20% de leur activité en France, qui sont très bien exportées à l'international et qui, au fond, nous aussi, nous aident à équilibrer nos comptes. Donc ça, c'est un point important. Et quand on veut avoir une vision un petit peu de l'équilibre des comptes, il faut tout mettre ensemble et pas juste, je pense, regarder la balance commerciale, si c'est important.
Et la balance des paiements est peut-être à peu près, grosso modo, équilibrée.
Équilibrée, parce qu'en fait, les services ont beaucoup augmenté au cours des dernières années en termes de soldes. Alors, pour partie sur le transport, mais aussi pour partie sur les services financiers post-Brexit. Donc, il faut avoir une vision un peu globale. On a une faiblesse qui est très forte, qui est celle de la faiblesse de la base industrielle. Et c'est ce qu'aussi dit notre enquête. C'est que les importateurs étrangers, quand ils cherchent à se fournir en France, ils n'ont pas forcément trop de choix, et ça manque. Et donc, on a un problème, en fait, d'attrition de la base industrielle qui s'auto-entretient, parce qu'au bout d'un moment, en fait, vous voyez que c'est un peu comme vous allez dans un supermarché, il n'y a rien dans les rayons, vous allez chez le voisin. C'est un peu la situation dans laquelle est la France. On a quand même une force qui reste, et je reboucle avec le CIR, on parlait d'aéronautique. Il faut voir en tête que quand on parle du CIR, en fait, ça finance notamment la R&D de Safran ou d'autres entreprises de ce type, qui justement, après, ont des...
C'est même une des critiques adressées au CIR, c'est que ça part trop chez les grandes entreprises.
Ils font des emplois ou autres. Donc, si on veut toucher le CIR, il faut avoir en tête aussi ces enjeux-là qui sont de l'exportation de choses très qualifiées. Et puis, un point qu'Olivier a mentionné, je pense qu'il faut avoir en tête, c'est que un certain nombre d'industries traditionnelles qui étaient plutôt des forces, notamment les boissons alcoolisées, les spiritueux ou autres, aujourd'hui sont en situation un petit peu de faiblesse. Et on est sur des sujets sur lesquels on avait plutôt une force, une marque, et c'est du très haut de gamme. Et donc, il faut faire attention à ça aussi.
Olivier,
la réaction sur la balance commerciale et la différentes façons de le voir est très juste. Si on le voit comme économiste et comme flux de financiers, il faut agréger effectivement les services et les transferts financiers et on arrive à quelque chose qui s'approche de l'équilibre. Ça, c'est une vision d'économiste. C'est très respectable, mais c'est pas la seule qu'une société, qu'une nation doit avoir. Regardons aussi notre balance commerciale en termes de souveraineté, de dépendance. Et à ce moment-là, il y a pas mal de transferts qu'il faut, je dirais, regarder différemment. Et si on se concentre sur la balance commerciale en biens, qui sont les choses matérielles que nous échangeons, l'équation est bien différente. Encore une fois, ça dépend du point de vue. La vision économique de notre société est légitime. Elle ne peut pas être la seule. La vision de cohésion sociale et territoriale, la vision de souveraineté sont aussi légitimes. Et dans ces cas-là, on ne regarde pas nécessairement les mêmes indicateurs.
Dorothée Osé.
Oui, alors moi, je partage qu'il y a différents objectifs. Par contre, je pense que, regardez, la balance, quand on regarde la balance commerciale, c'est important de regarder biens et services du point de vue de nos relations avec l'extérieur, et y compris de nos relations financières avec l'extérieur. milliards. L'industrie,
là, elle est excédentaire. Hein,
voilà, l'industrie en tant que telle est à regarder aussi pour des raisons de cohésion territoriale. Quand on parle souveraineté, pour moi, il ne faut pas regarder la balance des biens parce qu'il y a plein de choses et il y a plein de pays partenaires. Et quand on se pose des questions de souveraineté et de dépendance, au fond, le but, c'est pas l'autarcie. Le but,
j'ai jamais dit ça, hein, surtout
oui,
pas.
Mais justement.
Non, mais ça, c'est la critique facile quand on dit si vous dès qu'on a souveraineté.
On laisse finir de retenir vous et vous répondre.
Non, mais laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je vous ai écouté. C'est de dire, en fait, ce qui est important en termes de dépendance et de vulnérabilité, c'est de ne pas dépendre pour des biens qui sont essentiels ou stratégiques, parce que c'est des industries stratégiques, parce que c'est essentiel à la défense, à la santé, à l'alimentation, à des industries dont on ne peut pas se passer. De pays qui ne sont pas nos amis, suivez mon regard. Et donc, se dire, parce que j'ai une balance commerciale déficitaire, je suis dépendant, pour moi, c'est pas la bonne maille, parce que la bonne maille, elle est beaucoup plus fine en termes de biens et en termes de géographie. C'est choisissons nos alliés, choisissons de qui on accepte d'être dépendant et dans quel bien on accepte d'être dépendant.
C'est ce qu'on dit souvent, hein.
Et sur lesquels on n'accepte pas. C'est un vrai sujet qui est lié, mais qui n'est pas complètement, enfin, qui se recoupe pas complètement avec la balance commerciale dans laquelle il y a des biens pour lesquels, au fond, ça nous dérange pas d'être importateur et d'autres pour lesquels c'est très dérangeant.
La vraie souveraineté, c'est choisir ses dépendances et avec qui on échange.
Et je suis d'accord là-dessus. Un déficit commercial n'est pas forcément un reniement de souveraineté. Il faut qu'on voit derrière lesquels ils sont. Il faut choisir nos amis et puis il faut choisir aussi nos biens essentiels. On a plus de facilité à faire des cartographies de pays qui nous sont plus ou moins amicaux que d'avoir fait cette sélection des biens sur lesquels on veut véritablement
le faire. Il y a beaucoup de travaux.
On y voit clair, là. Il y a des travaux là-dessus.
Alors, à titre personnel, j'en conduis au Conservatoire national des arts et métiers. Voilà. Mais je trouve que notre réflexion collective, elle n'est pas au niveau des enjeux. On a des réflexions un peu sectorielles. On a fait les médicaments critiques. La liste des métaux critiques est quand même un peu un fourre-tout, il faut le dire. Et les objectifs de la Commission européenne sont en train de se révéler. Il y a un rapport de la Cour des comptes européenne là-dessus. Pas tout à fait quand même réaliste, etc. Mais on n'a pas de réflexion globale sur notre tissu économique et quels sont et quelle serait la définition des biens essentiels. Alors, il se trouve que j'y travaille et que normalement, on va sortir, dans le cadre d'un partenariat avec le Conseil d'État, une proposition. Encore une fois, ça demandera après à ce que le législateur s'en dessaisisse, mais d'un régime juridique, qu'est-ce que c'est qu'un bien essentiel et comment est-ce qu'on peut le travailler ? Notre réflexion, à mon avis collectif, n'est pas la maturité nécessaire par rapport aux enjeux de souveraineté, de retour des empires qu'on a aujourd'hui.
Vous y voyez clair à Bercy sur...
Alors, je pense
nos besoins.
Il y a différents exercices. Je pense que c'est difficile de dire prenons l'univers des biens et définissons lesquels sont essentiels. Il y a beaucoup de travaux à la fois. Alors, nous, on en a conduit, la Commission européenne aussi, parce qu'au fond, la maille intéressante, elle est souvent plus européenne que française. Et un certain nombre de travaux académiques qui, en un sens, prennent le sujet dans l'autre sens, qui est partons de notre commerce extérieur. Alors, le commerce extérieur, les données qu'on a, c'est 5 à 6 000 produits. Donc, c'est quand même très détaillé. Quels sont les produits pour lesquels nos importations sont très concentrées dans un pays ? Pour lesquels ces importations sont très concentrées dans un pays, et en plus, on a très peu de production domestique. Et ensuite, sur lesquels, donc on n'a pas les moyens de substituer parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres sources alternatives. Et en fait, ça permet, je dirais, de partir de cet univers de produits qui est très large et quelque part de faire l'entonnoir. Et à la fin, on arrive à quelques dizaines ou quelques centaines de produits sur lesquels nous sommes dépendants.
Qu'atypique des terres rares.
Une fois qu'on, voilà, mais qu'atypique des terres rares, mais parfois aussi des grippins ou des plantes vertes artificielles. Mais une fois qu'on a cette liste de quelques centaines de produits, on peut regarder ligne par ligne et au fond, on arrive assez vite à savoir dans cette liste quels sont ceux qui sont importants. Alors, il y a aussi des produits, voilà, des composants chimiques qui rentrent dans l'industrie automobile et dont on ne peut pas se passer. Il y a les terres rares, évidemment. En fait, il y a plein de choses. Mais ça permet, je dirais, de partir de nos dépendances et dans ces dépendances, ensuite, d'identifier lesquelles on veut réduire.
Allez, question dépendance, il y a un dernier thème sur lequel on est très 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 dépendant, c'est le numérique, évidemment, et l'intelligence artificielle. On vit dans une période importante. En ce moment même, les entreprises et l'administration sont en train de tester l'efficacité, pas l'efficacité, mais de voir là où l'IA est véritablement utile ou pas, avec des arbitrages financiers. Parce que beaucoup de chefs d'entreprise se rendent compte que l'IA coûte quand même extrêmement cher et n'est pas forcément utile de partout. Et c'est à ce moment-là que débarque la Chine, souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher, mais tout aussi performant et en plus en open source, ce qui n'est pas le cas des modèles américains. Les modèles chinois séduisent entreprises et administrations de plus en plus, mais est-ce qu'on peut confier son IA et ses data à Pékin, Olivier Rodoulès ?
Alors, je vais répondre, et je pense aussi que ça s'inscrit un peu dans la logique du débat qu'on a eu tout à l'heure sur la dépendance. En fait, ce qu'il faut... Je vais reprendre une expression des termes que Dorothée a utilisé, amis ou alliés. En réalité, en économie, on n'a pas vraiment d'amis ou d'alliés. On l'a vu même au niveau européen, on se fait tailler des croupières par nos amis allemands, par nos amis espagnols, par nos amis italiens. Donc, je pense qu'il faut pas...
Les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts.
Il y a des gens avec qui on a des relations... dans un droit codifié, qui ne font pas forcément du dumping. Il y en a avec qui, bon, c'est un peu le Far West, mais en fait, on est dans des gradients sur cette situation. Il y a personne qui est vraiment ami, personne qui est franchement ennemi, et de manière générale, on a plutôt intérêt à commercer avec tout le monde. Par ailleurs, nos dépendances, en fait, comment on lutte contre des dépendances, c'est... la première façon de lutter contre... c'est de mettre en concurrence nos fournisseurs. En fait, aujourd'hui, on a quelques entreprises qui commencent à émerger en Europe, mais qui ne font pas le poids face aux géants américains ou même à ceux qui émergent au côté chinois. Et donc, si on veut vraiment être indépendant d'une certaine façon, et par ailleurs, ne pas trop payer en rente IA à des acteurs américains, du coup, en fait, il faut au contraire essayer de mettre au maximum en concurrence les modèles chinois, modèles américains, les modèles d'autres pays.
D'autant plus qu'ils sont en open source, encore une fois. Donc, ça veut dire qu'on peut les intégrer sans forcément faire passer les données.
La concurrence a un rôle à jouer sur ça. Alors, on critique souvent la politique de concurrence, d'ailleurs, sur l'industrie, pour le passé, pour tout un tas de raisons. Après, on pourrait y en parler des heures. Mais parce qu'en fait, elle ne se soucie pas forcément assez du côté producteur. Mais du côté consommateur, elle a fait plutôt le job. En fait, au fond, au cours des 20-25 dernières années, la politique en concurrence est arrivée au niveau européen à nous faire bénéficier de prix très bas sur le numérique, parfois plus bas que les Américains eux-mêmes, qui fait qu'une partie d'ailleurs des gains de productivité qui ont été faits aux États-Unis ont été de cette façon retrocédés aux consommateurs américains qui ont payé tout pas très cher. Et donc, il faut continuer dans cette logique, il faut mettre tout ça en concurrence. Après, il y aura des problèmes de souveraineté avec la Chine, mais il y en a aussi avec
les États-Unis.
Vous
n'allez
pas confier vos données vitales à un acteur plutôt qu'un autre. Je ne vois pas pourquoi on ferait confiance à un côté plutôt que l'autre.
Cette mise en concurrence, elle est aussi faite au sein de l'administration. Dorothée Housé, j'ai appris avec surprise que du côté du Trésor, mais d'autres administrations, y compris à la DGA, me semble-t-il, ou au ministère de la Défense, on utilisait des IA chinoises, on les testait.
Oui, alors c'est une question d'expérimentation sur laquelle je peux revenir, mais je pense que effectivement, quand on se pose la question de pourquoi les entreprises et même au sein de la sphère publique, on se pose la question de, je dirais, quelle nationalité d'IA. Il y a trois types de considérations. La première, malheureusement l'état de fait aujourd'hui, c'est que même quand on veut n'utiliser que des outils français et européens, on n'a pas toute la panoplie d'outils disponibles.
Ni toute la palette.
Un certain nombre, y compris d'applications d'applications spécifiques aux entreprises qui intéressent, mais on entend aussi les entreprises qui disent, moi je cherche une offre européenne et je trouve pas chaussure à mon pied surtout. Donc là, on a encore évidemment beaucoup de travail. Ensuite, il y a les considérations de coûts qui émergent de plus en plus, qui est que après l'engouement initial, je dirais, les considérations de l'IA, ça coûte cher, les licences, les tokens, et ça devient des vrais centres de coûts qu'il faut gérer. Les IA chinoises sont moins chères. Alors, ça nous rappelle quand même une histoire qu'on a connue sur un certain nombre de biens, donc à aborder avec précaution, mais de fait, c'est une considération qu'on entend. Et puis la troisième, c'est au fond, quand on se pose la question de la souveraineté et que justement, on n'a pas forcément tout disponible en outils européens, qu'est-ce qu'on fait ? Et une des premières réponses, c'est de diversifier. Puisque maintenant, on voit que les États-Unis peuvent nous couper une IA du jour au lendemain, finalement, si j'ai une IA américaine et une IA chinoise, est-ce que je suis plus ou moins souverain ? Bon, en tout cas, j'ai diversifié mes risques.
On diversifie les risques. C'est vrai que l'affaire Anthropique a quand même secoué pas mal de
monde. Les IA open source, il y a une propriété qui est que les IA open source, vous pouvez les intégrer, vous pouvez les couper d'Internet, donc les modifier, etc., les héberger sur vos serveurs, les couper d'Internet, donc il n'y a pas de données qui sont retransmises à la Chine. Et qui a-t-on plus confiance en Washington qu'en Pékin pour ne pas aller regarder dans les données vitales de nos entreprises, je ne sais pas. Donc ensuite, l'expérimentation au sein de l'administration, pour revenir sur cet épisode qui a fait polémique, c'est justement une expérimentation qui est menée par la délégation interministérielle du numérique, qui avait identifié un certain nombre de modèles à regarder, dont un modèle chinois qui est assez courant d'ailleurs, pour des tâches justement sur, alors dans le cas du Trésor, plusieurs modèles ont été testés, alors sur des serveurs qui sont hébergés chez nous et 100% souverains, avec une application, une interface du code qui sont chez nous et 100% souverains, et coupés d'Internet, c'est-à-dire pas de transmission de données. Bon, il s'avère qu'après quelques semaines d'expérimentation, les expérimentateurs ont dit, l'agent conversationnel, il a un biais pro-chinois, il a fait des réponses qui sont un peu bizarres, ok, donc l'expérimentation se termine, on ne l'utilise pas. C'est aussi le but d'expérimenter.
Mais et de manière, encore une fois, complètement sécurisée.
Des IA américaines, mais qui n'ont pas toujours les mêmes propriétés open source, et in fine, on va utiliser un outil qui est basé sur Mistral, et tant mieux. Mais je pense que c'est aussi utile, je dirais, collectivement, entreprise, administration, etc., d'avoir ce travail un peu de d'explorer le champ des possibles et de voir aussi quels sont les risques, d'objectiver les risques et de prendre des décisions conscientes.
Et éclairer. Olivier Lantier, un commentaire.
Oui, pas beaucoup d'autres commentaires. C'est normal qu'on teste, c'est normal qu'on regarde et qu'on fasse jouer la concurrence. On est dans une situation de dépendance et donc diversifier les sources est la première réponse la plus facile. Après, l'autre levier que vous avez pas évoqué, c'est celui de la commande publique qui doit permettre de faire renaître et de rattraper un minimum.
C'est un grand sujet au niveau européen, ça. Hein,
sur ce dossier, alors on voit c'est en train d'être fait et ça va dans la bonne direction. Il y a des administrations qui se sont débranchées de Palantir, par exemple, pour favoriser des modèles européens, ne sont peut-être pas aujourd'hui aussi performants, mais si on ne fait pas l'effort d'investir en eux et la commande publique est une forme d'investissement, ils ne rejoindront pas les niveaux des autres. Donc, c'est bien un jeu à plusieurs dimensions qu'il faut jouer.
Bon, et pendant ce temps-là, Donald Trump vient d'affirmer que le cessez-le-feu avec l'Iran, un pays malade, dit le président américain, était terminé et le pétrole vient de gagner plus de 5%. C'est la fin du cessez-le-feu en Iran. C'est
vivement
aussi,
de l'incertitude.
Voilà, c'est ça. Donc, il va peut-être falloir revoir à nouveau les prévisions de croissance. Décidément, dans ce monde plus qu'incertain, c'est aussi la fin de cette émission. Ça, c'est plus stable, c'est tous les jours à la même heure. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci Dorothée Rouzet, merci Olivier Lanty, merci Olivier Redoulès pour cette émission.